Il est 9h20 minutes. J'essaie de pas parler de politique avec Gaétan Barrette, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, on va essayer au cours des prochaines minutes parce qu'on s'est dit cet été qu'on avait envie de rencontrer des gens à qui on parle souvent pour leur travail. Et puis là, ben essayer de sortir de ce cadre-là. Alors, Gaétan Barrette fait partie de la liste qu'on avait parce que, on a beaucoup entendu parler de Gaétan Barrette depuis nombre d'années. D'abord, quand vous étiez à la FMSQ. Bonjour, M. Barrette.
Bonjour.
Après ça, quand vous êtes devenu ministre de la Santé, évidemment. Et ce que je disais avant la pause, c'est vrai, j'ai fait des recherches. On n'apprend rien sur vous, personnellement, dans tous les articles, les entrevues que j'ai écoutées, tout ça. Et on dirait que votre univers tourne autour de votre job.
Non, c'est sûr que la job a toujours été quelque chose d'important pour moi, là, peu ouais. importe la job que j'ai occupée. Mais Monsieur Lacroix, moi, je suis une personne normale, oui. comme tous ceux et celles qui nous écoutent. Prenez quelqu'un, je sais pas moi, de votre famille, de ouais. vos amis, puis googlez-la. Je suis pas sûr que vous allez trouver grand-chose.
Non, je comprends, mais vous êtes quand même un personnage public. Est-ce que c'est volontaire, cette espèce de mur entre la vie privée et la vie publique?
C'est pas volontaire, mais je pense que pour moi, c'est souhaitable.
Ouais.
Disons que la vie publique est déjà assez un spectacle comme ça, on va dire, là, dans mon point de vue à moi, malheureusement. La vie privée, je pense que pour moi, ça doit être séparé.
Ouais.
Et tout le long de ma vie, j'ai jamais mis ça de l'avant publiquement. Puis je vais vous dire quelque chose de très, très vrai là, dans mon cas. Je ne le souhaite pas. Je le souhaite pas.
Mmh.
Moi, je pense que la vie privée, c'est...
Pour le bien des gens qui vous entourent.
Exactement. Ouais. Parce que, vous savez, les gens qui nous entourent, dépendamment de la situation dans laquelle une personne publique est, va subir des contre-coups. Une personne qui est publique, qui est critiquée, automatiquement, la critique va atteindre les autres, ne serait-ce que par le regard des gens qui entourent les autres.
Ouais.
Alors, si vous êtes quelqu'un comme moi qui, dans la vie, a, disons, fait des interventions qui étaient, qui avaient des effets.
Qui a suscité deux, trois controverses.
Exactement.
Ouais.
Ben, les autres autour, ça a un impact. Faut pas penser que ça n'a pas d'impact.
Ouais.
Vous savez, une critique extrêmement négative je pense à, il y en a, là. Il y en a dans le Journal de Montréal. Il y en a une, là, régulièrement, là. Ben, ça touche les gens autour parce que c'est pas justifié, c'est personnel.
Ouais.
Souvent, les critiques sont personnelles.
Ouais.
Et c'est ça qui affecte les gens autour, qui méritent pas ça.
Mais vous avez pris ça comment au cours des... écoutez, quand vous êtes entré à la FMSQ, déjà la controverse, vous suivait parce que là, vous négociez avec le gouvernement pour avoir des meilleures conditions, puis changer les conditions de pratique aussi, etc.
Ouais.
Là, vous étiez très controversé parce que vous avez la réputation d'être un bulldozer, là, d'être quelqu'un qui brasse, qui amène large, qui joue des coudes. Après ça, vous changez. Vous allez avec le gouvernement, puis encore là, vous êtes dans des controverses, puis tout ça. Vous avez passé pour quelqu'un de tough, de dur. Personnellement, c'est pas difficile, ça, d'avoir cette réputation-là tout le temps?
Ce qui est décevant, ça me déçoit, je vais vous dire, bien franchement, parce que je ne suis pas un bulldozer.
Ouais.
Je suis pas un bulldozer. Par contre, je défends mes points. Puis au Québec, aujourd'hui, on est rendu dans une société là où défendre un point, ben ça vous qualifie de bulldozer.
Ouais.
Ben oui, j'ai défendu mes points, puis je vais continuer à les défendre. Puis je les défends factuellement. Et évidemment que les points que j'ai à défendre sont des points qui sont sujets à débat et même à controverse. Vous savez, la controverse, là, ce que c'est dans le fond, c'est un débat avec lequel on n'est pas d'accord. Alors, quand j'étais l'autre bord, là, ben, je défendais le fait que les médecins, à l'époque, étaient jusqu'à 70 % moins bien rémunérés pour des actes identiques qu'en Ontario ou qu'au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, c'est pas exactement, on s'entend, là, la province la plus riche du Canada.
Ouais.
Alors, moi, que j'ai eu à défendre ça, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné une volée de bois vert parce que les docteurs et ainsi de suite, puis c'est des privilégiés.
Ouais.
Mais sur le principe de la chose, j'ai défendu un point qui était défendable, avec lequel des gens n'étaient pas confortables, et comme je l'ai défendu et gagné, parce que c'est ça la réalité, ben là, je passe pour un bulldozer. Quand j'ai fait la réforme que j'ai faite, puis vous m'avez dit que vous ne parliez pas de politique, mais c'est vous qui m'amenez là, ben la réforme que j'ai faite, ben écoutez, regardez-la, la réforme que j'ai faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui défait ça? Non.
Ben, elle a été très critiquée, la réforme. Mais elle est... Dans le milieu de la santé d'où vous proveniez, d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques
à cet égard-là. C'est sûr, parce que ça changeait certaines choses qui devaient changer. Laissez-moi juste faire un parallèle.
Ouais.
Moi, j'ai créé des autorités, là, les CIS, les C3S, tout ça. Pas les C3S, mais les CIS et les CIUS, qui ont une autonomie. Ils sont autonomes, ils ont un conseil d'administration. Regardez en éducation ce qu'on fait. En éducation, il n'y aura même pas de conseil d'administration, il y aura le ministre puis les écoles.
Ouais.
C'est tout. Alors, moi, je vous dis une chose, simplement, c'est que oui, je défends mes points avec énergie. Les gens ne défont pas ce que j'ai fait, donc c'est un signe de quelque chose. Mmh. Et je vais continuer à le faire.
Vous n'êtes plus un médecin maintenant.
Ben,
vous avez encore le...
Ouais.
Vous pouvez pratiquer encore, je pense. Vous avez,
Techniquement, dans ma situation, il y a une règle au Collège des médecins, qui est une excellente règle, d'ailleurs,
que
j'approuve, qui fait qu'après 3 ans d'inactivité, un médecin est obligé d'aller faire une mise à jour, un stage. Moi, là, ça fait maintenant bientôt, en fait, ça fait 6 ans que je n'ai pas pratiqué. Et ce que je faisais est quelque chose de très technique. C'est peu connu de la population en général, mais c'est très technique. Moi, si demain matin, j'allais repratiquer sans supervision, ça serait éthiquement tout à fait indéfendable. Alors, la règle du collège dit, après 3 ans, à plus forte raison, après 6, je dois aller faire un stage pour me remettre dedans avec un superviseur pour faire la démonstration que je suis à niveau pour la protection des patients.
Ouais.
Et c'est tout à fait normal. Mais donc, à votre question, est-ce que je peux retourner pratiquer? Oui, à la condition de ce que je viens de dire.
Mais vous m'avez déjà raconté, M. Barrette, votre dernière intervention que vous aviez faite.
Ah, ça a été la dernière. Ça, ça a été vraiment...
Et ça m'avait impressionné. Que vous avez pris conscience à un moment donné que vous n'étiez plus au même niveau que vous aviez déjà été.
Il y a eu un moment donné, vous savez, les médecins, là, surtout ceux qui pratiquent qui ont une pratique fortement technique.
Oui.
Les chirurgiens...
Vous, pour être clair, là, votre spécialité, c'est quoi là, comme radiologiste?
Moi,
c'est
j'appelle de la radiologie vasculaire et interventionnelle pour que les gens comprennent, qui nous écoutent. Là, tout le monde a entendu parler des cathétérismes cardiaques puis des stents.
Oui.
Vous savez, on rentre dans votre aine ou dans votre bras, puis avec un cathéter, on va dans votre cœur, puis on dilate une artère.
Oui.
Ben moi, je faisais ça dans tout le reste du corps.
Alors, ça demande une certaine... Dans tout le reste du corps, vous voulez dire, ça peut être le cerveau...
Les carotides, les reins, les jambes, partout où il y a ces lésions-là, puis il y en a partout.
Ouais. Donc, ça demande une dextérité fine, ça. Là.
Ça demande une dextérité fine. Et à un moment donné, si on n'en fait pas suffisamment, on peut commencer, ça se perd pas, là. Pour prendre une image, là, prenez un musicien, un pianiste. Un pianiste qui, pendant un an, ne pianote pas. Ben, il va pas aller faire un concert demain matin. Là. Il va être obligé de s'y remettre puis prendre un mois, là, pour se repratiquer. Il va pas perdre son talent. Il va pas arrêter d'être pianiste, mais il va perdre une certaine dextérité. C'est normal. Moi, vers la fin de ma pratique à la FMSQ, avant d'aller en politique, je travaillais moins pour garder la main. Je faisais des gardes. Une journée sur 3, j'étais de garde. Ça faisait qu'une journée sur 3, on m'appelait pour faire des cas. Et je pensais que c'était suffisant. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine finesse que je perdais. Et il y a eu un soir où j'ai eu à faire un cas là, extrêmement compliqué.
Ouais.
Moi, ce que je faisais, parfois, pas toujours, mais j'étais à la fin de la ligne. En ce sens que j'étais un peu le pompier. Là. Quand il y avait une complication, quand il y avait une situation comme cette dame-là qui n'était pas opérable, elle ne pouvait être traitée que par une technique que moi, j'utilisais. Écoutez, j'ai fait une procédure qui était complexe, que j'ai acceptée parce que le chirurgien est venu me voir et il me dit « Je peux pas l'opérer. Si je l'opère, elle s'en sortira pas. »
Donc, vous êtes le dernier espoir.
J'étais le dernier espoir et moi, je disais toujours oui. Moi, j'ai toujours donné la chance.
Ouais.
D'autres médecins de mes collègues auraient dit non.
Vous auriez pu refuser.
Ah ben oui, je suis sûr que mes collègues auraient probablement dit non parce que c'est un cas très compliqué qui avait peu de chances de réussir, mais vraiment très peu de chances.
Okay.
Et mais moi, je donne toujours dit oui. Moi, j'ai toujours dit oui au cas qu'on me demandait pour donner une chance au patient, même si les chances que ça marche étaient très faibles. Puis j'ai dit à la dame en question, j'ai dit « Madame, vous savez... » Et la dame était parfaitement consciente de sa situation. C'est une dame âgée qui avait eu plein de problèmes de santé dans sa vie. Alors, je m'installe pour faire la procédure. Puis la dame, j'avais expliqué, vous savez, ça va être long, Puis elle dit, docteur Barrette, je le sais, je suis rendu là dans ma vie. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais j'ai vécu une bonne vie, et ainsi de suite. Alors, je m'installe, puis je fais la procédure qui aurait duré, à mon avis, probablement 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures au maximum. Puis il faut imaginer la situation, M. Lacroix, imaginez ça, là. J'ai devant moi une dame, là, aux alentours de 80, là, je me rappelle pas son âge exactement, très frêle. C'est une dame pulmonaire, là. C'est une madame qui saignait dans ses poumons. Et tu sais, une madame, là, d'à peu près 5 pieds 3, 5 pieds 4, 5 pieds 5, 90 livres max, là. La procédure que je fais, moi, la dame est réveillée, là, puis elle est couchée sur une table d'examen qui est pas très, très confortable. Et j'ai avec moi du nouveau personnel qui commence. Puis là, c'est pas une question de lancer la pierre à qui que ce soit, là. Là, on a moi, qui en fait moins souvent, avec du personnel qui est moins habitué, et on s'embarque dans une procédure très complexe. Puis le personnel qui était avec moi est extraordinaire, là. Ouais. Vraiment, ils ont été extraordinaires. Monsieur Lacroix, ma procédure a duré 7 heures.
Alors que normalement, ça aurait duré 3 heures.
3 heures et demie, là. 4 maximum. 3 heures et demie. C'est compliqué, cette procédure-là.
Et est-ce que c'était parce que vous aviez moins pratiqué au cours des dernières années qui a fait en sorte que
Honnêtement, j'ai trouvé à ce moment-là que j'avais été moins bon. J'ai trouvé là que d'abord le matériel avait changé. Le matériel, là, ça change à tous les 2-3 mois là. Puis là, je suis arrivé là, je demande tel cathéter. Ah, le cathéter que j'utilise normalement n'est pas là, il était remplacé par un autre. Ouais. Sort le cathéter, c'est pas la même chose, c'est pas la même manipulation et ainsi de suite. Puis ça, c'est correct, là, c'est la vie, ça. Quand on arrive avec un nouveau cathéter, à ce moment-là, j'ai pris une décision qui était très simple. J'ai décidé d'arrêter. J'ai simplement décidé d'arrêter parce que je ne voulais pas me rendre au point où, vraiment, là, j'aurais été rendu au point où j'étais plus bon. J'ai décidé là que là, j'en avais pas assez.
Vous n'étiez plus à la hauteur à laquelle vous étiez habitué de performer.
J'étais peut-être moins 10% de ce que je faisais avant, là, de moins, là, mais je voulais pas me rendre à 50%. Puis je vais vous dire pourquoi.
Mais ça a fonctionné, le résultat des courses, c'est que ça a
fonctionné. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment la plus belle histoire de ma vie, parce que un an, jour plus tard, cette dame-là m'a écrit une lettre. Alors, vous comprenez que c'est une dame âgée de la génération d'avant qui m'a envoyé une belle lettre manuscrite. Pas une faute de français, une calligraphie d'une beauté. Et là, la dame me dit la chose suivante. Vous savez, docteur Barrette, là, la procédure, j'avais compris que c'était la dernière. Je suis encore en vie, mais vous savez, parce que quand on fait ces procédures-là, on jase avec le patient.
Ouais.
Elle dit, je pense que quand vous parliez pas, c'est que c'était difficile, puis il y avait des problèmes. Puis elle avait raison. On parle avec le patient. Et puis, quand je ne parle pas, c'est parce que là, ça
demande... Là, vous étiez concentré, là.
Là, j'étais concentré. Et là, techniquement, là, il fallait réussir l'affaire, la phase en question. Sans ça, il faut recommencer à zéro.
Ouais.
C'est vraiment comme ça. Et cette dame-là m'a écrit un an plus tard, vous savez, quand vous parliez pas, c'est parce que ça allait pas bien, puis il y avait des difficultés. Et elle avait raison. Puis, elle était encore en vie, puis elle me remerciait. Ça, c'est la plus belle lettre qu'on peut avoir quand on est un médecin.
Ouais.
C'est un patient, une femme, là, 7 heures de temps, qui est entrée dans une procédure en sachant que c'était sa dernière chance, qui s'est rendu compte, sans le dire, elle s'est pas plainte de rien, elle s'est rendu compte de tout. Je lisais sa lettre, je revivais cette période-là. J'étais content pour elle. Je sais pas si aujourd'hui elle est encore vivante. Ça fait quand même 5-6 ans. Et je le souhaite, je la salue si elle est à l'écoute. Mais ça pour un médecin, là, c'est vraiment le moment le plus extraordinaire.
Mais pour vous, rendu là, vous êtes rendu compte que là, c'est terminé. J'arrêtais plus à la hauteur de ce que je suis capable de faire normalement.
C'est-à-dire que j'étais à la hauteur, mais j'étais pas. Mettons que je suis moins 10, là.
Ouais.
Bon, faites-vous-en pas, là. Moi, chez les médecins, il y en a qui sont plus ou moins 10, là.
Ouais.
Pour moi, c'était pas acceptable. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais chef, là, à un moment donné, j'ai déjà dit à mes collègues, quand j'étais chef, c'est parce que là, tu l'as plus, tu devrais réorienter ta carrière. Et moi, j'ai vu des collègues refuser. Ouais.
Vous vouliez pas que quelqu'un vous dise ça.
Je voulais pas que quelqu'un en arrivait à ce point-là. Ça, c'est un médecin doit avoir le minimum d'introspection pour dire ou bien j'ai besoin de ressourcement, ou bien là je suis rendu à un moment où je l'ai plus, les techniques ont changé et ainsi de suite, puis se réorienter. Il y a toujours quelque chose d'autre qu'on peut faire, un peu aller en politique par exemple.
Oui, exactement.
Mais ça, ce moment-là, c'est un moment qui est extraordinaire. Ouais. Puis cette femme-là qui m'a écrit un an plus tard, écoutez, là, c'est fantastique. Là.
Qu'est-ce qui vous a amené vers la médecine? Parce que ce que je comprends à travers votre parcours, c'est que bon, vous êtes né à La Tuque en 56, pour pas donner votre âge. mais vous n'êtes pas un fils à papa, là. Vous n'êtes pas né dans une famille où ça prenait un médecin dans la famille. Le père était, je ne sais pas, médecin ou des trucs du genre. Vous vous êtes dirigé vers la médecine parce que c'est ce que vous vouliez faire. Là. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça?
Ben, écoutez, quand on est jeune, moi, quand j'avais au début de l'adolescence, ça, je pense que c'est connu, j'ai déjà dit. Mon père est décédé quand j'avais 11 ans.
Ouais.
Ma mère, qui avait 38 ans à l'époque, elle est allée faire son cours d'infirmière auxiliaire.
Elle s'est occupée des enfants toute seule?
Exactement. On était trois, on est déménagé à Sherbrooke. Imaginez, là, quand on était à Sherbrooke, on restait dans un demi-sous-sol.
Ouais.
Ma mère, deux pensionnaires, trois enfants.
Okay.
Dans un 4,5. Alors, pas besoin de vous dire qu'on sortait par la fenêtre la nuit pour aller jouer dehors parce qu'on s'ennuyait un petit peu dans la maison.
Ouais.
Et on était un petit peu tannant. Mais c'est pas grave, ma mère était une sainte. Elle a réussi à nous tenir.
Fait que c'est elle qui vous a amené.
Mais c'est-à-dire que elle,
dans cet univers-là?
Elle m'a amené dans cet univers-là. Et la deuxième job que j'ai eu dans ma vie là, d'étudiant à 15 ans, c'est préposé au CHU à Sherbrooke. Et de fil en aiguille, j'ai fait à peu près tous les postes dans les hôpitaux. Plus que ça, parce que moi, quand j'avais 18 ans, j'avais trois jobs. Là. Moi, je me rappelle le temps où j'étais déménageur la semaine, préposé le soir ou la nuit, la fin de semaine, et les samedis, vendredis et samedi soir, je livrais de la pizza dans une petite pizzeria. Fait que je gagnais ma croûte comme ça, puis ça me payait les études parce que ma mère n'a pas les moyens de payer tout ça.
Ouais.
Alors, moi, j'ai fait ça, mais dans ce milieu-là, là, j'ai eu la piqûre, et j'ai décidé de tout faire pour m'en aller là-dedans, et je suis allé là-dedans. Et je me suis pas trompé parce que honnêtement, là, j'ai fait le bon choix à ce moment-là.
Pourquoi vous avez commencé vos études en médecine à Grenoble?
Ah, ça c'est très très simple parce que moi, quand j'étais au Cégep, là, les gens vont se reconnaître. Pas me reconnaître, mais se reconnaître. Vous savez, le Cégep, c'est une époque de liberté, hein, surtout dans mes années à moi. Moi, mes années à moi, c'est 73, 75. Alors, c'était une époque... Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ça.
Ah, mais quoi, je suis tellement jeune.
Mais c'est une époque où, disons, on n'étudiait pas beaucoup. Je suis allé à Grenoble pour une raison très simple. Je ne suis pas rentré en médecine au Québec. Et en Europe, on prenait des. Y avait
vous n'êtes pas rentré parce que vous n'aviez pas les notes ou.
Ben non, j'avais pas les notes. Écoutez, là, j'avais un petit peu trop.
Fait la fête?
Fait la fête. Non, je ne sais pas si j'ai fait la fête, mais j'avais beaucoup d'activités.
OK.
Bon, on va dire.
Extracurriculaire.
Extracurriculaire. Et en France, il y avait. En France, c'était un concours. Et en France, ça veut dire qu'on prenait jusqu'à un certain nombre d'étrangers. Puis les Français, le Québec, on a toujours eu des échanges. Puis ils nous prenaient, mais ils nous prenaient pas direct. Ils nous prenaient dans ce qu'ils appelaient un concours.
Ouais.
Alors, je vous donne comment ça fonctionne. Là. On était 1200 et ils en prenaient 120. Sur les 120, il ne pouvait pas y avoir plus que 12 étrangers. Et par étranger, on prenait un Français de plus pour être équitable. Okay. Ça en prenait 132.
Ouais.
Alors moi, j'ai été 64e sur 1200.
Ouais.
Il y avait une autre fille de Montréal qui était 75e, puis elle n'est pas passée parce qu'il en prenait juste 12.
Ouais.
Alors moi, j'ai fait un concours, puis c'était vraiment un concours. Il n'y a rien qui existe comme ça au Québec. Là. C'est l'enfer. Personne ne se parle. Prenez des notes, puis vous passez les examens, puis que le meilleur gagne, that's all.
Et moi, vous avez fait combien de temps là-bas?
5 ans.
Donc, toute votre médecine
La médecine, c'est 7 ans. Ça fait que je suis venu la finir au Québec pour une raison simple. À l'époque, il y avait un ministre de la Santé de l'époque qui avait choisi, qui avait décidé qu'il n'y aurait plus de gens diplômés à l'étranger qui rentraient au Québec.
Okay.
Il trouvait qu'il y avait trop de docteurs. Fait que là, je me suis informé, est-ce que moi, là, en étant Québécois, mais diplômé à l'étranger, je suis considéré comme un diplômé à l'étranger étranger? Ils m'ont répondu oui, mais là, il faut que je sois diplômé au Québec. Ça fait que je suis revenu à l'Université de Montréal.
Pour finir
mon cours, parce que là, il y avait des équivalences.
Considéré comme Québécois, dans le fond.
Exactement. C'est la réalité des choses.
À part la politique. C'est amusant, hein? Oui, c'est amusant, certain. À part la politique et la médecine, qu'est-ce que vous faites dans la vie, politique et la médecine?
Écoute, moi, j'ai une vie tout à fait normale, comme tout le monde, là. J'ai des loisirs. J'ai pas de loisirs spécifiques que je pratique, là.
Je sais que vous aimez le hockey, quand même, pas mal.
Oui, j'aime le hockey. Je vais souvent au Centre Bell. J'aime bien le hockey.
Sur le bord de la bande, en bas?
Oui, on est sur le bord de la bande, en bas. Hey, si vous me posez la question, est-ce qu'on est déçu du repêchage?
Oui.
Oui, on est déçu dans la famille du repêchage.
Ouais. OK, c'est une histoire de famille.
On aime bien le hockey chez nous. On aime pas mal le hockey.
Si vous n'aviez pas été médecin, qu'est-ce que vous auriez fait?
Moi? Écoutez, si je n'avais pas été médecin, ça, c'est une bonne question.
Vous aimez beaucoup la négo, de ce que je comprends?
Ouais. Vous savez, quand moi j'étais, vous aviez compris que quand moi j'étais, disons, au secondaire, pas au cégep, j'étais pas exactement veston-cravate.
Ouais.
Et puis les gens qu'on se côtoyait pas là, à l'université, là, c'était les gens de droit. Parce que les gens de droit, eux autres, ils arrivent à l'université en veston pas en cravate.
Ouais, ouais.
En tout cas, à mon époque. Mm. Puis nous autres, on était les cheveux longs, puis ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, je suis pas allé en droit parce que j'avais une mauvaise perception du droit.
Ouais.
Aujourd'hui, là, si j'avais à le faire, je sais aujourd'hui que j'aurais été très heureux en droit à plaider. Parce que négocier, c'est de la plaidoirie.
Ben oui.
Et j'aurais été très heureux là-dedans. Mais je le sais aujourd'hui, ce que je ne voyais pas à l'époque, par un biais qui était complètement injustifié, mais c'est un biais de jeunes. Les jeunes ont tous des biais. Hein. Un veut pas aller dans telle affaire, un veut pas aller dans telle affaire. Même moi, quand je suis allé en médecine, là, ce que je voyais en médecine à l'époque, c'est pas ce que j'ai vu à la fin. Croyez-le ou non, moi, en médecine, je voulais être le docteur Welby, le héros.
Ben oui.
Dans ma génération, c'était le docteur Welby.
Ouais.
C'est pas exactement ça que j'ai fait. J'ai même commencé, moi, dans le programme de neurochirurgie, puis j'ai changé pour ce que je fais aujourd'hui, parce que c'était tellement dynamique, tellement jeune, tellement le fun. Mmh. Puis je me suis pas trompé. La beauté de la médecine, c'est qu'il y a littéralement une chaussure pour tous les pieds, mais j'aurais été heureux, par exemple, en droit. J'aurais été heureux dans d'autres choses. Là. Je peux vous dire une affaire, moi, dans les jobs d'été que j'ai eu, qui était le plus le fun pour moi, c'était camionneur. Fait que j'aurais été heureux là-dedans aussi, mais qu'est-ce que vous voulez?
On si fait vous étiez allé en neurologie, peut-être que vous seriez tombé sur Philippe Couillard, on sait jamais.
Il était résident un an de plus que moi. On était dans le même programme pendant un instant. Bon, on ne s'est pas vraiment côtoyé à cette époque-là.
OK, vous êtes côtoyé après à bien des occasions.
On s'est côtoyé après avec les hauts et les bas.
Vous avez vous êtes affronté, après ça, il est devenu votre boss.
C'est ça. Mais en 2006, j'avais gagné mon point, c'était un moment mémorable.
Oui, exactement. Monsieur Barrette, c'est tout le temps qu'on a. Ça fait déjà 21 minutes. Le temps file. Tempus fugit, comme on dit en chinois.
Exactement.
Merci beaucoup d'être passé.
Je vais remercier mon garçon qui tourne autour actuellement.
Il est en train d'agrandir le trou de la couche d'ozone.
Exactement.
Merci beaucoup d'être passé. J'espère que les gens ont appris à mieux vous connaître. En tout cas, ça a été
très ça me fait plaisir. Et au plaisir de se revoir sur la colline bientôt.
Bientôt, oui.
C'est bon.
À la fin de l'été. Au revoir.
Merci, au revoir.